Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver encore dans cette émission. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. Nous allons parler des réfugiés et bien comment réussir l'autonomisation des réfugiés urbains en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui l'honorable Freddy Mbakata. Il est élu de la Tchangou et fondateur de l'ONG ADES, qui veut dire Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement. Docteur Freddy, bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons également dans ce studio Docteur Augustin Kapika. Il est directeur général de cette ONG ADES. Docteur Augustin, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Et excellente condition d'écoute de ce programme. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, fidèles auditeurs. Eh bien, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Tati Mapoukou assure la coordination de cette émission. Jean-Noël Mokondo à la mise en onde au micro. C'est Jody Daniel Kajama. Bienvenue à tous.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Bien, la République démocratique du Congo enregistre un nombre important de réfugiés urbains. Selon l'UNHCR, ils viennent de plusieurs pays africains, la République centrafricaine, le Burundi, le Rwanda, le Soudan du Sud, l'Ouganda, l'Angola, etc. Certains réfugiés sont dans les sites établis par le gouvernement en collaboration avec certaines organisations internationales et locales. D'autres réfugiés résident à leurs propres frais dans les centres urbains. Alors on les encourage à avoir des petites unités de production pour arriver à s'autonomiser. Eh bien, c'est de cela que nous allons échanger aujourd'hui avec nos invités. Je commence avec vous, honorable Freddy Mbakata. Vous êtes fondateur de cette ONG ADES, Association pour le Développement Social et la Sauvegarde de l'Environnement. D'abord, rappelez-nous la mission. Quelle est la mission de cette structure?
Bon, nous avons plusieurs objectifs. L'un des objectifs, c'est de faire l'humanitaire en respectant l'environnement, parce que nous avions constaté que des ONG internationales qui venaient en grand nombre, ils ne s'occupaient que de réfugiés. L'environnement dans lequel ils travaillaient, ils détruisaient totalement les forêts, les savanes, et quand la crise était finie, ils repartaient sans remettre l'environnement dans des conditions requises. Nous, nous sommes des nationaux, nous nous sommes dit non, nous devons voir une structure qui respectera l'environnement. Et vous-même, vous connaissez aujourd'hui quelle est l'importance de l'environnement et tout cela. Donc, c'était ça l'un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est de prendre le besoin de la communauté et le couler dans de projets qui peuvent être bancables. Soit par des organismes du système des Nations Unies ou bien d'autres partenaires. L'un des objectifs aussi, c'est de réduire le fardeau de la femme dans la communauté. Vous savez, dans des communautés rurales, la femme fait tout. La femme s'occupe du ménage. La femme va chercher du bois.
La femme elle prépare, va chercher la nourriture,
elle prépare la nourriture.
Elle fait beaucoup de choses. Hein.
Et nous, les hommes, c'est la paresse. On va tirer juste un peu de vin de palme qu'on va boire. On attend que sa femme lui sert. Donc, voilà, il faut alléger cette tâche pour que la femme, qui est une personne intelligente aussi, puisse s'occuper des autres activités du développement du pays. Voilà un peu. Je crois que mon collègue docteur...
Oui, ça fait combien d'années que vous travaillez
Nous sommes dans notre 25e année. Et nous sommes l'un des grands partenaires du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés en République démocratique du Congo. 25 ans d'une façon continue, sans interruption.
Dans les domaines humanitaires,
oui.
Bien. Alors, je reviens à vous, docteur Augustin Kapika. Vous êtes le directeur général de cette ONG ADES. Avec vous, on va parler des réfugiés urbains. D'abord, aidez-nous à comprendre qu'est-ce qu'on entend par réfugiés urbains.
Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que par la notion réfugié urbain, il ne faut pas écarter cette notion de vrai nom du réfugié. Tous sont des réfugiés. Ouais. Quand on dit un réfugié, ça dit celui qui a quitté son pays, qui a traversé la frontière et qui a choisi notre pays comme pays d'asile. Alors, ceux qui sont de chez nous dans le pays pour avoir traversé la frontière sont des réfugiés. Mais ceux qui ont choisi la ville pour habiter au niveau de la en plein centre-ville, enfin en ville comme à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, etc., ceux-là sont des réfugiés urbains.
Donc, voilà, ils ne se retrouvent plus dans des camps aménagés pour les réfugiés. Maintenant, ils louent des maisons, ils font leurs activités.
Ils vivent comme des Congolais au quotidien et ils louent, ils sont avec des Congolais, ils vivent ensemble et ils font leurs activités. Ils se débrouillent comme eux pour survivre.
Mais ils ont toujours les statuts des réfugiés.
Ils ont toujours les statuts des réfugiés.
Alors comment les rendre autonomes? Parce que de plus en plus, on parle de l'autonomisation. Et ces gens sont souvent butés à des problèmes. Il y a d'autres qui n'ont pas de moyens, d'autres qui sont vulnérables ou qui circulent dans les villes en train de quémander pour survivre. Qu'est-ce qui doit être fait pour les rendre autonomes?
Oui, ça c'est une notion très vaste, rendre des réfugiés autonomes. Et avant même de parler de ça, j'aimerais bien vous dire que nous, en tant qu'organisation, en tant que ONG, nous avons une partie de tout ce qui est comme problématique autour des réfugiés. Les réfugiés relèvent de la responsabilité du gouvernement congolais, de l'État congolais. Et l'État congolais qui accepte des réfugiés. Et l'État congolais est aidé, assisté par le HCR, l'agence des systèmes des Nations Unies, qui l'appuie pour la prise en charge de ces réfugiés-là. Il faut que ça soit clair là-dessus. Mmh. Et l'État congolais le fait à travers la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR. Et c'est la CNR qui répond auprès du HCR. Et nous, en tant qu'organisation, comme le HCR n'intervient pas directement en tant qu'agent du système des Nations Unies, directement sur terrain auprès des réfugiés, il utilise des ONG. Et les ONG qui sont, nous sommes parmi les ONG qui sont utilisées pour intervenir et mettre en œuvre ce que le HCR devait faire directement, il le fait à travers nous, des organisations. Alors nous, en tant qu'ONG, nous mettons en œuvre des activités qui relèvent de notre compétence après la signature des accords avec notre partenaire, il y a certes que nous on s'attend et dit voilà, pour les réfugiés il faut faire ceci, cela, et c'est ça que nous faisons. Et heureusement, dedans il y a l'autonomisation, effectivement.
Donc il y a un paquet, plusieurs activités. Et parmi ces activités, l'autonomisation.
Donc il y a entre autres la prise en charge médicale, et il y a une prise en charge aussi que nous faisons auprès des réfugiés, des personnes à besoins spécifiques, etc. Et entre autres, l'autonomisation.
D'accord. Docteur honorable Freddy Mbakata, vous avez la parole.
Oui, je voulais compléter à ce que mon ami le docteur Kapika vient de dire. La notion d'autonomisation vient du fait que parmi ces réfugiés, il y a des gens qui ont déjà passé 20 ans ici, 25 ans ou même 30 ans. Ces réfugiés sont assistés continuellement par les ACR dans tous les domaines.
30 ans au Congo.
Oui, il y en a qui ont fait 30 ans ou plus. Et vous donne un exemple, peut-être ils n'ont pas encore atteint 30 ans, mais les réfugiés rwandais, depuis la crise rwandaise de 1994, il y en a qui sont ici, au Burundi même, nos amis de Congo-Brazzaville ici en face, depuis la crise entre le président Sassou et Lissouba, ils sont ici depuis longtemps, donc vous pouvez voir vous-même depuis combien de temps. Mmh. Et ces gens sont assistés par les ACR. Au début, quand ils étaient venus, on leur donnait de quoi manger à travers le programme de PAM et autres. On les reprend.
Ils étaient logés où?
Bon, ils louent. On leur loue des maisons. Okay. On leur donne des fonds pour qu'ils puissent louer des maisons. Et on les assiste pour les études de leurs enfants. Donc, c'est depuis 30 ans ou 20 ans que cette assistance de la communauté internationale à travers la ACER leur parviennent. Alors, l'ACER et les bailleurs de fonds qui donnent leur argent auprès de l'ACER sont fatigués. Parce
oui,
qu'il y a d'autres,
depuis 30 ans, c'est,
oui,
c'est
parce
beaucoup.
Parce qu'il y a d'autres crises à travers le monde, oui. Vous le savez vous-même. Mmh. Alors, ils se disent, mais ils sont là depuis 20 ans, ils sont là depuis 25 ans. Pourquoi ils ne vivraient pas comme les autochtones? Donc, c'est là où arrive la notion d'autonomisation. Mmh. Et quand donc l'autonomisation voudrait qu'on puisse conduire ces réfugiés qui ont la protection du pays, qui ont la protection du ACER, pour qu'on les amène à vivre comme leurs collègues autochtones congolais de la RDC. Voilà, c'est comme ça la notion d'autonomie. Donc il y a tout un programme sur l'autonomisation.
Au lieu de continuer à dépendre du ACR.
Voilà, il y a tout un programme, comme notre directeur général venait de le dire, qui est tracé et qui a plusieurs étapes pour qu'on le conduise à l'autonomisation, pour que l'intervention du ACR cesse et qu'il puisse vivre comme des Congolais, des natifs de ces pays. Voilà.
Docteur Freddy, est-ce qu'on a une idée sur leur nombre ici en République démocratique du Congo? Bon, je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Tati, passe le micro là. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de donner la parole au docteur Augustin Kapika. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette question-là?
Oui, écoutez, le nombre de réfugiés urbains ou réfugiés en général?
Urbains, parce qu'il s'agit de...
Le réfugié urbain, il faut... C'est là toute la problématique. Les réfugiés urbains, ils peuvent être au nombre, je prends un exemple, de 2000. Mais ce qui concerne, hein, qui nous, qui relève de l'assistance ou qui relève de notre compétence pour assister, ils sont moins. Comprenez, c'est-à-dire, il y en a qui ont juste droit à la protection du HR, il y en a qui ont droit à l'assistance, etc. Donc tout ça fait que, en général, on ne peut pas parler d'un nombre exact de réfugiés qui sont assistés par nous. Nous, quant à nous, nous prenons actuellement, je peux vous dire, dans les 320 ménages que nous prenons en charge au niveau de Kinshasa.
320 ménages.
320 ménages. Et au niveau de Lubumbashi, c'est un peu pareil, mais c'est un peu 500 ménages, etc. Donc, parce que nous sommes à Lubumbashi et à Kinshasa. Nous les prenons en charge.
Et c'est beaucoup,
ont,
hein?
Oui, ils ont droit aux soins médicaux, à l'éducation et à certaines d'autres assistances. Mais comme l'a dit l'honorable aussi, vous devez savoir que, je pense en 2018, il y a eu la grande crise mondiale, financière mondiale. Et jusqu'à présent, les bailleurs de fonds et tous ceux qui assistent commencent à réfléchir.
À revoir à la baisse leur contribution.
Entre-temps, il y a eu la crise syrienne, il y a eu d'autres crises au monde. Et maintenant, on parle de
l'Ukraine.
De l'Ukraine. Est-ce qu'il y aura encore de moyens vraiment pour continuer à assister? Étant donné que les moyens sont très limités, et maintenant, le peu qu'il y a, on s'est dit non. Au lieu que vous continuez à tendre la main, allez, dites-nous, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? C'est ça, en fait, l'autonomisation.
L'autonomisation.
Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Et on vous assiste, vous allez vous-même et vous volez de vos propres ailes.
Docteur Freddy.
Oui, un complément d'information quant à ce que mon collègue Dr Kapika vient de dire. Quand il parle, par exemple, de 300 ménages, en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux. Par ménage, ça signifie...
Des ménages femme, d'une taille de 6 à 7 personnes, peut-être?
6 à 7 personnes, donc 300... Il faut multiplier peut-être par 7 si on doit compter les dépendants, leurs épouses. Donc par 300 ménages, en réalité, les individus comme tels peuvent être 1000 ou 1200. Mais quant aux autres statistiques, avec précision, je crois que notre chef de projet, M. Roger Mounionolo, peut compléter.
M. Roger, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Vous êtes chef de projet à l'Association pour le développement social et la sauvegarde de l'environnement. On voudrait avoir cerné les nombres de ces réfugiés urbains qui sont par exemple à Kinshasa ou à Lubumbashi. Ouais. On a juste eu l'idée tout à l'heure, mais vous pouvez encore nous donner plus de détails.
Le nombre de ménages, c'est celui que a indiqué notre directeur général, d'à peu près 320 ménages ici à Kinshasa, pour un nombre total de près de 998 réfugiés, dont 52% sont de sexe masculin et à peu près 48% de sexe féminin. Ça, c'est pour la ville de Kinshasa. Mmh. Ils sont de plusieurs nationalités. En grande majorité, ce sont des Congolais de Brazzaville. Il y a aussi des Centrafricains, des Burundais. Il y a quelques Érythréens, Somaliens, ainsi de suite. Des Rwandais, quelques Rwandais aussi. À Lubumbashi, ils sont un peu plus nombreux.
Et des Libériens, on n'en retrouve plus les Libériens.
Ici, si, il doit y en avoir deux ou trois ménages de Libériens. Mmh. Voilà. À Lubumbashi, ils sont un peu plus nombreux. Il y a à peu près 500, un peu plus de 500 ménages, comme le directeur général l'a dit, pour plus de 1300 personnes. Mais ce qu'on constate, c'est que la proportion des réfugiés de sexe masculin est plus grande que celle des réfugiés de sexe féminin. Voilà. Ici à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi. Alors, c'est au niveau des statistiques.
D'accord. Et maintenant, la question est de les rendre autonomes. Ils ont fait plus de peut-être 30 ans ici, les bailleurs, il n'y a plus assez de moyens, plus assez de ressources. Ouais. Maintenant, ils doivent être à mesure de voler de leurs propres ailes. Qu'est-ce que vous faites pour les aider dans ce sens-là?
Voilà. L'autonomisation des réfugiés urbains de Kinshasa, tout comme de Lubumbashi, se fonde sur le principe que on doit renforcer leurs moyens de subsistance. Quand on parle de renforcer, cela signifie que, comme tous les Congolais, ils se débrouillent déjà dans plusieurs petites activités. Vous voyez?
Parce qu'ils ont des familles et tout ça.
Voilà, ils vivent.
Ils vivent normalement.
Ils s'intègrent dans le circuit social, économique du pays. Mm. C'est ça la finalité. Alors, maintenant, quand il s'agit de renforcer, on regarde ceux qui ont déjà développé des activités de autosubsistance. Et on les appuie.
Des activités génératrices de revenus.
Génératrices de revenus. Quand on parle maintenant d'activités génératrices de revenus, lorsqu'on les organise, soit individuellement, soit en association. Et là, selon leurs besoins, leurs activités antérieures, par exemple, on trouvera un groupe de réfugiés qui sont actifs dans les activités de petit commerce, dans les activités agricoles, dans les activités de jardinage, hein, maraîchère, ainsi de suite. Mmh. Eh bien,
on les organise selon les secteurs.
Après les avoir formés, il y a des jeunes qu'on a envoyés en formation à l'INPP, à l'Institut National de Préparation Professionnelle, faire l'auto-école, le froid, l'informatique, etc., etc.
La mécanique, etc.
La mécanique. Donc, on les organise en association, soit individuellement, parce que c'est une organisation libre. On ne peut pas forcer. On ne peut pas les forcer. L'essentiel est d'obtenir leur capacité de résilience dans ce qu'ils font, et on les appuie selon leurs besoins, en les dotant des outils aratoires, par exemple, en les dotant des moyens financiers, des ressources financières pour mener à bien leurs activités. Et on les suit régulièrement. Parce que cela se fait au terme d'une analyse socio-économique qui détermine leur niveau déjà au moment où on va commencer à les appuyer, donc le point de départ, et comment ils vont progresser dans leurs différentes activités génératrices de revenus. Comme l'ont dit l'honorable et notre directeur général, la finalité, c'est de les rendre autosuffisants. Ils doivent subvenir à leurs besoins. Étant donné que l'assistance ne peut pas être continuelle
oui.
Jusqu'à l'infini. Voilà.
Bien, on va accueillir un auditeur de Lubumbashi. Charles, il y a un auditeur de Guémena, Maître Mopila, et Charles Kisimba de Lubumbashi. Maître Mopila, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour docteur Eti et bonjour au directeur général de ADES qui sont au plateau chez vous à la Radio Capi. Ici j'interviens parce que je suis dans une province et dans une ville qui accueille les réfugiés à Guémena. Ils sont à Molé et ils sont aussi à Libengue. Molé c'est à 35 km de Zongo et Libengue c'est plus de 250 km vers Guémena.
Les réfugiés centrafricains.
Les réfugiés sont à Molé.
Oui, je disais.
35 km à Zongo, ville de Zongo et puis à Libengue. 93 km pour la ville de Zongo.
Oui, je disais et que ce sont des réfugiés centrafricains.
Centrafricains, de la RCA.
D'accord.
République centrafricaine, oui.
D'accord.
En fait, je crois que l'invité a bien défini ce qu'on appelle HR, parce qu'ils ils sont là, ils sont comme ONG, ils représentent l'air ONG. Mais HR, c'est le haut commissariat pour les réfugiés. Alors, si on prend seulement la définition, et par rapport à la définition liée à la personne des réfugiés elle-même. C'est une personne qui a une situation de guerre dans son État et quitte son État pour venir choisir un État et un réfugié. Mais ce qu'on a constaté à Zongo, il y a des gens, on appelle, en fait, je les qualifie de faux réfugiés. Ils sont autochtones de la ville de Zongo, ils se déguisent aux réfugiés et ils bénéficient peut-être seulement aux moyens qu'on peut donner à un réfugié par rapport à leur définition. Et je vois Hadès, je vis aussi Hadès à Zongo. Et si vous voyez, ils cherchent à autonomiser les réfugiés. Mais il y a aussi des familles d'accueil qui au lieu qu'ils restent au camp, ils sont dans une famille d'accueil. Maintenant, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils pensent aussi à la famille qui cherche à accueillir ces gens-là, des réfugiés? Parce que je peux accepter que non, ils viennent chez moi, dans ma maison, dans ma parcelle privée. Ce sont des citoyens, ce sont des humains comme moi. Maintenant, on leur paye. Mais là, la personne qui les garde, là, qui les reçoivent, qu'est-ce que la personne peut gagner au retour par rapport à l'ONG? Ça, c'est de un. De deux, un État qui a un problème chez lui. Par exemple, le Rwanda, qui est notre État voisin. Maintenant, il vient ici, le Rwandais vient ici au Congo. Ils prennent du temps. Maintenant, cet État-là nous attaque une parenthèse. Maintenant, qu'est-ce que Hadès fait pour conseiller cet État-là que non, vos citoyens sont ici, ils peuvent mourir. Alors, dans leur objectif, ils ne passent pas ça. Ce sont les problèmes qui se posent par rapport aux conditions de refuge là où je suis, dans la province du Bangui.
Merci, Maître Mopila de Guémena. Charles Kissimba, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'EJT.
Quelle est votre préoccupation, Charles?
Oui, M. Jody, si vous allez un peu me le permettre, parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique. Nous voulons un peu savoir à l'EJT, est-ce qu'il y a la différence entre un réfugié, un diaspora, ainsi qu'un exilé? Nous voulons un peu savoir la différence. Et puis des deux, est-ce qu'en RDC, il existe une loi ou bien statut portant protection des réfugiés? Nous voulons aussi savoir quant à ça. Et autre chose, ici chez nous, nous accueillons très bien nos frères du monde entier. Il n'y a pas aucun problème d'habitude. Nous sommes un pays hospitalier, tous les mots du genre. Mais là chez eux, en tout cas, c'est là où que les Congolais n'arrivent pas à se retrouver. Est-ce que...
Oui, on vous écoute, Charles.
Oui, est-ce que continuer à supplier pour eux l'autonomisation, ce n'est pas une descente de trop, parce que l'État congolais d'abord lui-même est capable de prendre en charge sa population. Que dire maintenant des réfugiés? Moi, je pense que songer à leur autonomisation, en tout cas, ça ne sera pas chose facile. Voilà un peu ce que j'ai voulu demander.
Merci Charles, merci à Maître Mopila de Guémena. Docteur Freddy Mbakata, à vous la parole.
Bien, il y a plusieurs questions, donc nous allons nous partager avec nos deux collègues. C'est vrai, notre citoyen de Guémena, il connaît notre ONG, c'est une très bonne chose.
Vous êtes à Molé, à Libengué.
Oui, exactement.
Il déplore le fait qu'il y a des faux réfugiés là-bas.
Oui, ce problème des faux réfugiés, il faut comprendre. Ce sont des populations qui sont de la part et d'autre de la rive Oubangui. En fait, c'est une même tribu. Ils parlent la même langue, ils ont la même morphologie.
Même culture.
Même culture et tout et tout. Et bon, ils peuvent se glisser, ils viennent, ils se déclarent, ils sont réfugiés. Et parfois, ce sont des Congolais qui habitent la République centrafricaine. Mais dès qu'ils entendent qu'on donne de vivre, qu'on donne ceci, telle assistance dans les camps,
ils viennent se faire passer pour des réfugiés.
Mais il y a un contrôle très rigoureux, parce qu'un réfugié, qu'il soit au camp, ou qu'ils soient ici en ville, en dehors des camps, ils ont des cartes. Hein, quand vous avez vos cartes, donc, on voit si vous êtes vraiment reconnu par les ACR. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. Peut-être mes collègues peuvent aussi intervenir. Alors, il y a notre ami de Lubumbashi qui veut savoir la différence entre un réfugié,
diaspora, exilé, tout ça.
Et exilé. Bon, le réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son milieu habituel, qui fuit parce qu'il y a l'insécurité dans son milieu et qui va chercher asile ailleurs, où il peut avoir de meilleures conditions. Mais en fuyant, il traverse les frontières de son pays d'origine. Je donne un exemple. S'il y a des troubles à Brazzaville, un Congolais de Brazzaville qui vient à Kinshasa, il est réfugié. S'il y a des troubles ici à Kinshasa, un compatriote qui quitterait Kinshasa pour Lubumbashi, il n'est pas réfugié. Lui, il est déplacé interne. Mmh. Donc, il quitte parce qu'il y a des problèmes. Et quand il arrive dans les pays d'accueil, il a les droits de se déclarer, hein, qu'il est réfugié, de se présenter pour qu'il puisse bénéficier de la protection, parce que c'est le pays hôte qui a les droits d'assurer la protection à ces personnes qui sont venues dans son pays d'accueil. Mais les diasporas, bon, on peut le considérer de plusieurs façons. Il y a des gens qui partent d'ici parce qu'ils n'ont pas du travail, parce qu'ils ont faim, ils arrivent
ils vont chercher.
Ce sont des réfugiés. Quand ils arrivent en Europe, en Belgique, en France ou en Italie, ils se déclarent qu'ils sont des réfugiés. Donc, en gros, ce sont des réfugiés.
D'autres se déclarent des réfugiés politiques.
Bon, politique, oui, c'est un réfugié politique, c'est-à-dire lui détermine la cause de sa fuite. Hein, il a fui, il était peut-être ministre, il a été poursuivi pour qu'on l'arrête. Il prend en fuite, il arrive en Europe, il est réfugié politique. Lui, l'étiquette de sa cause de départ est bien déterminée, de réfugié politique. Mais les diasporas, c'est nous qui les appelons diaspora. Diaspora, ça signifie un Congolais qui vit à l'étranger. Un Congolais peut vivre à l'étranger sans pour autant qu'il soit réfugié. Hein, ceux qui travaillent dans nos ambassades là-bas, ou ceux qui sont partis étudier, qui sont là-bas, qui sont pris en charge par leurs parents ou qui ont obtenu des bourses d'études, ceux-là ne sont pas des réfugiés. C'est pas parce qu'on est Congolais, on vit dans un pays étranger
qu'on est réfugié. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi des réfugiés économiques?
Mais oui, bien sûr.
À cause de la crise.
Bien sûr. La plupart, quand vous prenez un jeune homme qui habite une ville ou n'importe quel quartier d'ici, il ne trouve pas du travail. Il croit que l'Europe, c'est
l'Eldorado.
Il va là-bas, vous connaissez le cheminement qu'ils suivent. Ils vont jusqu'au Maroc, en Libye, ils traversent, ils prennent beaucoup de risques pour arriver de l'autre côté. Voilà, ça sont là des réfugiés économiques. Alors, il y a un autre compatriote qui dit, nous sommes très accueillants, mais quand les nôtres partent à l'étranger,
ils sont maltraités.
J'ai habité, moi, par exemple, l'Ouganda, à Kampala. Mais la plupart des Congolais qui arrivent là-bas, ils ne se déclarent pas au commissariat des Nations Unies pour dire que je suis un réfugié et j'habite tel endroit. Certaines personnes ont honte, d'autres peut-être se déclarent bien sûr. Donc quand vous ne vous déclarez pas et au ACR et au pays hôte, comment voulez-vous qu'on prenne soin de vous? Voilà ce que je pouvais dire.
D'accord. Monsieur Roger Mouniot.
Oui, l'essentiel, c'est ce que l'honorable vient de dire. Hein, la dernière phrase de son expérience en Ouganda, il dit qu'il y a des Congolais qui arrivent là-bas et qui ne se déclarent pas au HCR et auprès du pays hôte. Parce que le statut de réfugié est déterminé par le HCR en accord avec le pays hôte. Nos réfugiés déclarés ici en République démocratique du Congo, ils sont réfugiés reconnus par le HCR et c'est la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, qui est le représentant de l'État congolais auprès du HCR. C'est lui qui détermine, qui octroie le statut de réfugié avec un document reconnu et par l'État congolais, et par le HCR, qui, déterminant le statut, donne aux réfugiés le droit à la protection et à l'assistance.
Est-ce qu'ils ont le droit de travailler, le droit de se marier, de vivre normalement, comme tous les autres citoyens?
Oui, ils s'intègrent. Dans le pays d'accueil. Ils s'intègrent dans la vie sociale et économique du pays hôte, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous avons des réfugiés ici qui ont épousé des femmes congolaises. Mais une fois qu'un réfugié au Congo est marié à une épouse congolaise, son statut est autrement déterminé par la CNR et le HCR. Il n'est plus réfugié à part entière. Donc il y a des variantes.
D'accord.
Voilà.
Bien, on va, avant de donner la parole à Dr Kapika, on va accueillir trois autres auditeurs. Samuel Beya est à Kinshasa, Gaston également, et Kacha nous appelle des Kanyoka dans les Kasaï centrales. Samuel Beya, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, Daniel Kachama, et bonjour à nos invités.
Nous parlons de l'autonomisation des réfugiés urbains. Quelle est votre question là-dessus?
Ah oui, ma question est celle de savoir, lorsque l'invité a expliqué, je ne parviens pas à déterminer ce qu'elle crée, comme ils sont au nombre de trois, maintenant l'autre, l'invité a parlé que même ceux qui se déplacent à l'interne sont aussi des réfugiés. Oui, le problème d'autonomisation ne concerne pas seulement ceux qui sont venus ailleurs, mais pourquoi l'ONG ne s'occupe pas aussi de ceux qui se sont déplacés à l'interne et venir dans le milieu plus concentré, la ville comme Lubumbashi et aussi à Kinshasa, pour les aussi rendre autonomes? Qu'est-ce qui empêche aussi à rendre aussi les réfugiés internes autonomes?
Ben, on ne parle pas des réfugiés internes, on parle des déplacés. Hein.
Ah, les déplacés, oui. La deuxième question. Nous savons que la question que vous avez posée aux invités, ces gens-là ont droit de vivre comme les autres. Ils se marient à nos serres et sans problème, ils mettent au monde. Maintenant, depuis qu'ils sont venus ici, le temps là où la durée n'est pas déterminée pour dire que non, un réfugié est accueilli, après autant d'années, il sera rapatrié dans son pays non plus. Mais la RDC n'a pas déterminé ça. Mais ce que je voulais maintenant demander, si l'enfant qui est né par un réfugié et une sœur, notre sœur, une dame congolaise, même son père, là, s'il commence maintenant à présenter les ambitions politiques, est-ce que c'est interdit ou pas, c'est l'enfant qui est né avec notre sœur congolaise, ou soit lui-même le réfugié, dit aujourd'hui que non, il me faut aussi se lancer dans des activités politiques, est-ce que c'est interdit ou pas? C'est ça aussi ce que je voulais demander. Pour devenir un député, un ministre, un président de la République, est-ce qu'il y a une interdiction ou pas? Voici ce que j'avais comme question.
Merci. Je vous remercie. Merci Samuel Beya. Gaston, vous êtes aussi à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
On vous écoute.
Bon, je dis, j'aimerais un peu avoir une idée sur les villes de la RDC qui regorgent des réfugiés, que vous qualifiez des réfugiés urbains. Quelles sont les villes et quelle est la nationalité de ces réfugiés là, s'ils peuvent un peu nous expliquer. Et puis, j'aimerais avoir une idée sur les réfugiés éternels en RDC. Parce que je sais que je suis une personne qui fuit les dangers de l'autre côté et qui vient de... Lorsque les dangers n'est plus, les risques n'est plus, ils pouvaient rentrer. Pourquoi on a pu ça...
Merci, la communication n'est pas très bonne. Merci, on a retenu votre question. On va donner la parole à Kachaï de Kanyuka. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama, et bonjour aux invités de la radio Okapi.
On vous écoute, Kachaï.
Merci beaucoup, monsieur Jody. C'est vrai qu'à Kanyuka, nous n'avons pas de réfugiés, mais nous avons d'autres catégories de personnes relevant du mandat du HCR, les déplacés internes, les rapatriés, les apatrides et les demandeurs d'asile. Les invités ont martelé là-dessus par rapport à la manière d'autonomiser le réfugié urbain. Alors, je ne sais pas s'ils peuvent nous donner des précisions, parce que il y a des principes que le Haut Commissariat des Nations Unies a mis en place vis-à-vis des réfugiés. C'est notamment dans la recherche de solutions durables, il y a le retour volontaire, il y a l'intégration locale et la réinstallation. Alors maintenant, par rapport aux réfugiés urbains là, quel est le principe entre les trois là qui sont appliqués vis-à-vis des réfugiés qui ne veulent pas rentrer dans leur pays d'origine? Est-ce c'est l'intégration locale ou la réinstallation? Et quelle est la différence qu'ils peuvent établir entre le vrai réfugié et le demandeur d'asile? Parce qu'ils ont bien dit qu'un réfugié, c'est toute personne qui a fui son pays d'origine, il fuit la persécution vers un autre pays pour qu'il soit protégé. Alors maintenant, je ne sais pas, le demandeur d'asile, c'est qui? Il est dans quel pays? Est-ce qu'il peut être, un demandeur d'asile peut être entre les deux pays à la fois? Troisièmement, c'est pour chuter avec le cas que nous avons connu ici au Kasaï central, monsieur Jody, à Kanyuka, avec le rapatrié de l'Angola, qui était venu de l'Angola vers la frontière de Kalambambouji et la frontière de Kamako au Kasaï. Ce du cartel central qui sont arrivés ici, monsieur Jody, étaient installés dans la commune de Lukonga, au village Nkonko, dans un camp, lequel camp qui a été aménagé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Mais il faudrait que ces rapatriés-là, je dirais, parce que bon, je ne sais pas s'ils sont le migrant économique ou les rapatriés, alors il faudrait que ces rapatriés-là soient effectivement enregistrés pour qu'ils puissent bénéficier d'abord d'une assistance. Mais dans l'enregistrement, il y a eu des pas. Le gouvernement central avait envoyé des fonds, lesquels fonds qui ont été mal gérés, jusqu'à ce que le réfugié avait boycotté tout ce qu'on avait fait pour eux, je dirais les rapatriés, et ils ont détruit le camp, ils se sont emportés à ceux qui les enregistraient, et actuellement là, le camp est resté vide, les uns sont rentrés en Angola où ils venaient, les autres ont intégré des familles locales. Dans ces conditions-là, comment peut-on identifier, si les responsables de l'ONG peuvent nous préciser, comment peut-on alors identifier tous les rapatriés ici à Kanyoka qui ne savent pas maintenant vaguer ou intégrer normalement la communauté?
Merci.
Parce qu'ils n'ont pas de fonds, ils n'ont pas de l'assistance.
Voilà.
VHCR a arrêté parce qu'il a été mal accueilli.
D'accord, merci Ketchaï. Docteur Augustin Kafika, à vous la parole.
Oui, merci Jolie. Moi je pense que il faut d'entrée de jeu, comme on l'a dit, que ça soit clair pour tout le monde. Il y a une différence entre réfugiés et déplacés. Donc ceux qui sont chez eux dans les pays ne sont pas des réfugiés. Malgré qu'ils relèvent aussi de mandat du HCR, mais il faut qu'on fasse la distinction. Tu peux quitter aujourd'hui ici à Kinshasa, j'ai fait 30 minutes, je suis à Brazzaville, je suis réfugié. Mais celui qui quitte Kinshasa pour aller à Lubumbashi ou à Goma, il n'est pas réfugié parce qu'il est toujours chez lui, malgré qu'il aura parcouru 2000 kilomètres. Donc il faut que ça soit clair. Alors j'aimerais aussi, avant de répondre à ceux qui venaient de parler là, il y a un qui a posé une question fondamentale. Il a demandé s'il y a des lois pour le statut des réfugiés. Si nous, malgré que là nous parlons de l'autonomisation, il y a des aspects de protection qui ne concernent pas notre organisation. Les aspects de protection relèvent de la CNR, la Commission nationale pour les réfugiés, et du HCR. Donc nous ici, le débat, le sujet est large. Si on doit parler de réfugiés, il y a beaucoup d'aspects.
Oui, il y a beaucoup d'aspects.
Mais nous,
aujourd'hui,
nous
c'est plus l'autonomisation.
Alors donc, je voulais juste lui dire qu'il y a plusieurs lois que notre pays a ratifiées au niveau des Nations Unies. Plusieurs lois sur les réfugiés. Donc ça existe. Donc cela n'y a même pas à s'inquiéter. Alors, donc, l'autonomisation de réfugiés qui sont chez nous, c'est de l'autonomisation qui prend en compte actuellement, et dans l'intérieur surtout, ceux qui sont dans les camps, aussi la population autochtone. Ça, les gens doivent être tranquilles parce que l'HCR a une nouvelle approche maintenant. Il va dans le sens de pôle de développement. S'il y a un camp, par exemple, où les réfugiés qui sont à l'équateur, comme l'autre Ali, vers Libengue, vers Molé. À Zongo, quand l'HCR intervient pour les réfugiés, il y a des actions que l'HCR mène pour toute la population locale, même les familles d'accueil. On renforce les centres de santé, là où il y en a, où on construit. Des écoles, on en construit, où on renforce aussi, on améliore. Donc l'eau, s'il y a l'eau, on apporte l'eau, confort, c'est pour et les réfugiés et la population locale. Donc ça, c'est des actions au moins qui peuvent mettre tout le monde à l'aise, même ceux qui sont des familles d'accueil ou de la population locale. Alors, il y a la plupart, il y a même un qui a dit, bon voilà, pourquoi l'État congolais va encore autonomiser des réfugiés, parce qu'il n'arrive même pas à autonomiser les Congolais. Moi je pense que quand on accepte de recevoir chez soi des réfugiés, et ces réfugiés-là, il y a certaines obligations que le pays doit envers ces gens-là. Il faut les mettre dans certaines conditions. Et ici, quand on dit qu'on autonomise des réfugiés, c'est pas que on va les faire des richards, des grands riches, je ne sais pas moi, des grands messieurs. C'est pour les amener au même niveau que les Congolais dans les milieux où ils vivent. Ça, c'est des aspects très importants que nos amis doivent aussi retenir.
D'accord.
Alors, je voulais juste ajouter quelque chose sur... Il y a Gaston qui a dit quelles sont les villes qui regorgent aujourd'hui des réfugiés urbains.
Mm.
Bon, ceux qui sont connus, nous, on est à Kinshasa, il y a des réfugiés urbains. On a parlé de leur nationalité. Ils sont centrafricains, rwandais, burundais, ils sont du Congo-Brazzaville, ils sont sud-soudanais, etc. Et ils sont aussi à Lubumbashi. À Lubumbashi, la plupart sont burundais, sont aussi rwandais. Il y a des centrafricains aussi que vous allez retrouver là-bas. Ils sont à Bukavu, à Goma. Donc, dans des grandes villes, il y en a. Mais il y a d'autres villes, certainement, mais qui ne sont pas peut-être déclarées ou connues. Alors, c'est des Guéménans qui sont réfugiés au niveau des Guéménans. On ne peut pas les prendre en charge aussi longtemps qu'il y a des sites précis là où on prend des réfugiés déjà en charge. Il y a les camps de Molé, il y a les camps de Boyabouali Bengué, il y a les camps de Bili, il y a les camps à Inke.
Et, donc, et pour ceux-là qui ne veulent plus rester dans les camps, qui veulent... aller ailleurs.
Bon, ça c'est ce que j'ai dit, un problème de protection. Il doit se prononcer auprès de la CNR, prononcer auprès de la CNR pour voir quel statut leur donner.
D'accord.
Si la CNR sera d'accord.
Docteur voilà. Freddy Mbakata, il y a eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs?
Bien, merci beaucoup. Je crois que il y a notre ami qui a parlé de retour volontaire, réinsertion,
réinstallation, voilà.
Bon, vous savez, quand un réfugié prend la décision de quitter son pays pour chercher refuge dans le pays d'accueil, il y a une raison qui l'a poussé et nous avons déterminé ici la raison. Ça peut être la guerre, l'insécurité, ça peut être la sécheresse, la famine. Ça peut être beaucoup d'autres raisons.
Mmh.
Et quand le réfugié est dans les pays hôtes, il constate lui-même que de là où je suis venu, le calme est revenu. Les causes qui ont fait que je puisse fuir, par exemple la persécution religieuse ou quoi, raciale ou quoi là, n'existent plus. Lui-même peut décider
de rentrer.
Il n'y a aucune obstruction là-dessus. Tout comme ceux qui vivent dans des camps ou en ville ici, les ACR, de commun accord, le pays de départ des réfugiés, hein, si nous parlons des réfugiés centrafricains, donc c'est la Centrafrique, et la RDC qui est le pays d'accueil, et les ACR font une réunion qu'on appelle tripartite. Parce que le pays de départ peut déclarer que je voudrais que mes compatriotes rentrent maintenant. Il doit y avoir cette réunion tripartite pour évaluer si réellement les causes qui ont prévalu au moment du départ ont cessé. Donc, on part de cette réunion tripartite et on décide, on organise maintenant les rapatriements volontaires. Alors, la réinsertion, quelqu'un qui vient ici en République démocratique du Congo, il trouve de bonnes conditions ici, des terres fertiles. Il trouve que le pays est libre. On ne fait pas la chasse à l'homme, de quelle ethnie il y est, de quoi et de quoi.
Mm.
Et il trouve les conditions ici favorables. Il a de la terre, il kiffe. Contrairement à son pays où il est, d'où il est venu.
Il décide
de rester ici.
Oui.
Ok, cette personne doit déclarer aussi sa volonté. Et au niveau du ACR, on va négocier avec les pays hôtes. Si les pays hôtes acceptent de les réintégrer dans le pays.
Mmh.
A fortiori, s'il y a un réfugié qui s'est marié à une compatriote congolaise de notre pays. Bon, là,
et ils ont des enfants.
Voilà, ils ont des enfants. Celui-là, s'il demande de rester ici, il a beaucoup plus de chances. Bon, et maintenant, la réinstallation. Il y a des réfugiés politiques notoirement connus, qui ont été, par exemple, de grandes personnes chez eux, des ministres ou quoi là, ils ont troublé l'ordre public. Les instances de sécurité de l'autre pays peuvent venir d'une façon maligne pour mettre la main sur lui ici. Mm. Je donne un exemple. Un réfugié qui partirait de Congo-Brazzaville, il est ici à Kinshasa. S'il est vraiment dangereux au gouvernement du Congo en face, Mais le Congo en face, on connaît le moyen de sécurité. Mmh. On peut envoyer les agents de sa sécurité qui viennent ici
pour mettre la main sur lui. Oui.
Vous avez appris des réfugiés rwandais qui ont été tués, même en Afrique du Sud, ce n'est pas un secret de Porchinet. Donc, quand cet homme-là est en danger, celui-ci peut demander la réinstallation. Alors, s'il avait fui d'abord ici, le Congo-Brazzaville, il est ici, on peut le faire partir d'ici pour un pays lointain. Il peut aller en Australie, il peut
oui,
aller
c'est ça, en insécurité
où le pays du départ n'aura pas de moyens de le poursuivre jusque-là. Mm. C'est ça, il demande une réinstallation.
Rapidement, il y a eu une autre question. Un réfugié qui arrive ici, au lieu de vendre, de faire quelques activités économiques, il veut se lancer en politique. Il veut postuler, devenir député national.
Ah, mais non.
Est-ce faisable?
Non, c'est pas faisable. S'il est réellement un réfugié, il garde son statut parce qu'il y a les lois du pays. Mm. Ne peuvent accéder à ce genre de poste que les natifs du pays. Mais s'il veut être enseignant, s'il veut être médecin, il peut l'être, hein, pour autant que le pays l'ait besoin. Parce qu'il y a des pays qui peuvent dire que non, dans ce domaine-là, nos compatriotes, il y en a encore qui sont sur le marché de l'emploi, on ne vous utilise pas. Mais il y a des petits métiers qu'ils peuvent faire. Ils peuvent faire le commerce, ils le font. Ils peuvent enseigner, ils le font. Nous avons eu un réfugié burundais ici, dans le cadre de la réinsertion, qu'on a aidé, il a terminé ses études de médecine ici, on l'a aidé pour se faire inscrire à l'ordre de médecin, on l'a aidé pour qu'il puisse trouver du travail. Donc,
voilà. Bien, docteur Freddy, on n'a plus beaucoup de temps, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. On va accueillir 3 auditeurs, le sujet intéresse tellement les auditeurs. Malonga est à Bandundouville, Joël nous appelle de Kinshasa et Orsène de Lubumbashi. Malonga, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à notre invité là-bas.
Rapidement, vous n'avez plus beaucoup de temps, quelle est votre question en quelques secondes?
Oui, ça va. La question en illustration. Je dis, vous savez que une personne qui a été mordue par les serpents, même les lézards, c'est craignant pour lui. Nous, dans notre pays, nous avions connu l'expérience des réfugiés à l'est du Congo. Lorsque les réfugiés sont rentrés là-bas, c'est ce qui nous ont amené à ce que nous subissons aujourd'hui.
Quelle est la question oui? Rapidement, rapidement la question.
Oui, la question, si les réfugiés se voient lui-même, ou bien les réfugiés se voient eux-mêmes qu'ils traînent déjà dans le pays, est-ce qu'ils peuvent se déclarer que non, moi je reste ici, malgré l'invité a dit là-bas, mais je ne suis pas convaincu. Parce qu'il y a d'autres qui se déclarent, ils sont là-bas, comme nous avions vécu dans des années arrière. Aujourd'hui, les Banimulenge étaient les réfugiés. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les autochtones. Est-ce que d'eux-mêmes, ou bien il y a une loi d'attribuer vraiment...
Merci, on a compris. Merci beaucoup Joël, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, je suis revenu un peu.
Rapidement, quelle est la question?
Bon, ma question est à ce niveau-ci. Les droits précisent que les réfugiés ont tous les droits, hormis certains droits que les nationaux possèdent. Ils ont presque tous les droits sociaux qu'ils ont, économie, des trucs comme ça. Pourquoi imaginer autonomiser ces gens-là qui jouissent déjà de tous les droits et les seuls qui les ont accueillis?
Merci. Orsène de Lubumbashi, bonjour.
Et bonjour, je vous dis bonjour.
On vous écoute.
Oui, je dis, j'avais une question et deux questions plutôt. La première question est celle de savoir quand ils sont bien réfugiés dans un autre pays. Ils viennent avec un document.
Orsène, merci de vous déplacer un peu pour qu'on vous entende clairement. C'est pas
oui,
très clair.
Je disais ceci. Je ne sais pas si vous m'écoutez maintenant.
Oui, ça va maintenant.
Oui, j'avais des questions de demander pour l'invité. Si quelqu'un se déplace dans son pays pour un autre pays en tant que réfugié, il vient avec un document justificatif ou bien la partie aussi comme ça, sans document, et là, c'est pas verbalement. La deuxième question, c'est de savoir quand on est réfugié, on arrive dans un pays, on doit se présenter ou à l'ambassade ou bien ça se passe comment.
Merci Orsène. Monsieur Roger, vous avez la parole.
Oui, par rapport à notre concitoyen qui parle des Banyamulenge qui sont venus comme réfugiés et qui sont devenus des Congolais, je me demande s'ils sont venus avec le statut de réfugiés attribué par le HCR. Nous parlons ici du mandat des réfugiés en tant que personne qui relève du mandat du HCR. Leur mandat est attribué par le HCR avec la Commission nationale de réfugiés qui est l'organe du gouvernement de l'État congolais et qui représente les intérêts de l'État congolais auprès du HCR. Donc, ceux qui viennent comme réfugiés, reconnus par le HCR, relevant du mandat du HCR et connus par l'État congolais à travers la CNR, ils ne peuvent pas du jour au lendemain se transformer en Banyamulenge. Donc, il s'agit de l'État congolais qui doit réglementer. Et les lois existent.
Alors, et puis, il y a Joël qui dit ils ont tous les droits sociaux. Pourquoi les autonomiser encore?
Non, on a bien dit ici, les réfugiés, non, ils ont des droits de protection et d'assistance en tant que réfugiés. Et comme ils reçoivent une assistance qui n'est pas éternelle, il faut les intégrer dans le système économique congolais. Il y a des Congolais qui exercent des petits commerces, qui font de l'agriculture comme moyen de subsistance. Mmh. Et les réfugiés sont intégrés dans ce système-là avec l'appui du HCR.
D'accord. Voilà. Et lorsqu'ils arrivent, est-ce qu'ils ont des documents justificatifs et où est-ce qu'ils doivent se présenter à l'ambassade ou comment ça se passe?
C'est entre l'État congolais, oui, le HCR et la CNR, qui représente l'État congolais.
D'accord. Voilà. Docteur Kapika, et puis on va terminer avec Dr Freddy.
Oui, mais juste rapidement, hein, je veux recadrer là. Donc il faut absolument, absolument que nos auditeurs comprennent qu'il y a des aspects de protection qui sont énormes, encore une fois de plus, et que s'ils en veulent, peut-être vous pouvez organiser une émission avec la CNR ou avec le HCR. Mais nous, en ce qui nous concerne, je trouve qu'il y a une question pertinente, par exemple, qui demande pourquoi autonomiser les réfugiés alors qu'ils ont les mêmes droits que les Congolais. Je vais lui dire que je ne sais pas s'il a déjà vu les réfugiés quand ils fuient la guerre. Ils abandonnent tout, ils viennent dépourvus.
Ils n'ont presque rien.
Ils n'ont rien, ils viennent dépourvus de tout, tout le monde. Il y en a qui ont été déjà en exil, même en refuge, même des Congolais. Et dès qu'ils arrivent dans cette vulnérabilité-là, il faut les aider à atteindre à peu près le niveau des Congolais là où ils habitent pour mener à peu près la même vie.
Merci. On va terminer avec Dr Freddy Mbakata.
Oui, je voulais dire, parce qu'il y a un compatriote qui demande que quand les réfugiés viennent, est-ce qu'ils viennent avec les documents? Dr Kapika vient bien de le dire clairement. Si les armes commencent à crépiter ici,
vous n'aurez même pas le temps de prendre,
pas le temps d'aller à la commune pour dire que j'ai besoin de tels documents pour aller. Non, vous fouillez,
c'est ça.
Ils arrivent démunis de tout. C'est comme ça qu'on les prend en charge. Et plus tard, on leur donne des documents qui les reconnaissent qu'ils sont des réfugiés.
Il y a un enregistrement par la CNR.
Et quand l'assistance dure pendant plusieurs années, comme j'ai dit, on voudrait les mener au même niveau que les natifs du pays pour qu'ils puissent se prendre eux-mêmes en charge. On peut les aider à obtenir des terres sur lesquelles ils vont cultiver. On va les aider à ce que leurs enfants étudient dans les mêmes écoles que les Congolais.
Merci
pour
beaucoup.
Certains documents pour faire le commerce.
Merci Dr Freddy Mbakata. Je rappelle que vous êtes élu de la Chambre et fondateur de l'ONG ADES. Merci à Dr Augustin Kapika et merci à Monsieur Roger, le chargé des projets, d'avoir Mouniololo, voilà, d'avoir participé à cette émission. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce magazine de la vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.
Merci.